Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Ça va être un véritable feu d'artifice ce soir, au lendemain de ce 14 juillet. On va naturellement revenir sur bien l'Euro de foot, hein, dont on vous a parlé entre le 14 juin et le 14 juillet. Donc, durant un mois, on fera le bilan définitif de la victoire espagnole hier devant donc l'équipe d'Angleterre 2-1, après une victoire également en demi-finale. On l'avait vécu avec notre ami Guy pour les Espagnols mardi. Et puis on reviendra également dans la page olympique, hein. On est à J-12 ou 13 maintenant, hein, des Jeux olympiques. Alors je vais saluer tous ceux qui sont autour de la table. Il avait commencé la saison avec moi, c'était le rugby, on va
absolument
la finir. C'est notre ami François Artigas. Bonsoir François,
bonsoir,
ça va?
Bonsoir à tous, oui ça va, très
t'es
bien.
En pleine forme?
Bah, en pleine forme, hein, oui.
À J-13 hein, bientôt. Ouais. Hein, ouais. Hein, on parlera aussi un petit peu de la flamme qui est dans la capitale cette semaine. Et ce week-end, on va saluer Alexandre.
Bonsoir Philippe, bonsoir
ça va,
à tous.
Alexandre, t'as passé un ça bon va week-end de sport?
Très bon week-end, j'étais content ce
ouais
week-end.
Hein, les Espagnols à l'honneur, c'est Alcaraz ça et La Roja.
C'est ça.
Voilà. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe, ouais, bonsoir à tous.
Quoi de neuf pour la flamme olympique, on le verra, elle est sur Paris, hein, on aura l'occasion donc d'y revenir. Notre arbitre maison, Loane, que je le salue. Bonsoir Loane.
Bonsoir Philippe, bonsoir ouais à tous.
Tout va bien, t'es content de 7 euros?
Très bien, très bien.
Et de la prestation de monsieur Le Texier.
Voilà, on avait ouais des Français en finale, c'est très ouais bien.
Tu auras l'occasion de nous en reparler. Et également, notre ami Julien est avec nous. Bonsoir Julien, ça va?
Bonsoir Philippe.
L'agent de joueur, hein, qui connaît bien le foot. Hein, tout. Il t'a plu le taureau, Julien? On en reparlera.
Il m'a plu moyennement, globalement, moyennement, mais ouais content de la finale. Ouais,
très bien. Et puis, bah, il était avec nous mardi. Et il nous avait promis de revenir. C'est notre ami Guy. Bonsoir Guy Michelin, ça va Guy?
Tout va bien.
Bon, depuis mardi, bien récupéré?
Oui, bien récupéré. Hein, oui.
Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit, donc, équipe de France qui a été battue mardi par l'Espagne 2-1. Dans le même, le lendemain, l'Angleterre battait les Pays-Bas 2-1. Et la finale, donc, hier, qui a vu la victoire de l'Espagne face à l'Angleterre 2-1. J'ai envie de dire que c'est le foot qui a été récompensé et qui en est sorti vainqueur.
Oui, je pense aussi que c'est un résultat tout à fait logique, quoi.
Oui.
L'Espagne a dominé 7 euros, oui, qui pour moi n'est pas un grand cru.
Non, non, on en a parlé. Hein.
Mais oui, elle a fait les Espagnols ont fait le job. 7 matchs, 7 victoires.
Absolument.
Il n'y a rien à dire. Mm-hmm. Et la finale, on a bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart, mais une bonne classe d'écart avec l'Angleterre.
Oui.
D'abord parce que le jeu espagnol, on a tout de suite vu qu'elle allait s'installer. C'est fluide. Ils se trouvent bien. Ils ont des individualités remarquables. Et comme on disait la dernière fois, c'est la génération
oui
qui a été championne d'Europe espoir, qui est encore là. Bon.
Oui, parce
moi,
que
c'est une victoire tout à fait logique.
Oui, parce que
et les Anglais, ils ont ce petit problème de ne pas arriver à passer le plafond de verre. Alors qu'ils ont des très bons joueurs, parce oui qu'on a vu quand même qu'il y avait des bonnes individualités.
Ah oui, c'est ce qui les a sauvés sur l'ensemble de la compétition.
Le Palmer, quand il est rentré, ouais, il a fait un truc fantastique. Bon, j'ai été un peu déçu par le jeune Watkins, qui avait été bien meilleur.
Oui, contre les Pays-Bas, c'est...
Avant,
ouais,
oui.
Il avait...
Bon, alors, puis Harry Kane...
Le chat noir, c'est le chat noir.
J'ai l'impression qu'il est un peu comme Cristiano Ronaldo, quoi.
Ah, oui, non, c'est le chat noir, lui, il n'a rien gagné.
Ouais.
Hein, oui, c'est vrai que l'équipe espagnole, quand même, c'est fabuleux. Ils, bon, oui, quatrième titre de champion d'Europe.
Quoi. Elle est complète ouais dans toutes ses lignes.
Ouais, ouais.
Alors nous, Français, on va être chauvin.
On va ouais, dire on que a été battu par les vainqueurs.
La charnière voilà espagnole,
ouais.
Le Normand, la porte, c'est quand même pas mal.
Ouais. Julien, c'est la victoire du football. C'était la logique, on l'avait dit, hein, la semaine dernière, l'équipe espagnole, c'était l'équipe qui avait fait la meilleure impression. Elle est allée au bout, elle a gagné ses 7 matchs. Mais en plus, quand on regarde, c'est quand même une équipe qui a été championne d'Europe espoir donc en 2019, qui a été en finale 4 ans plus tard, battue par l'Angleterre. Les filles sont championnes du monde chez les féminines. Elles ont aussi la Ligue des Champions avec Barcelone et puis Real, 15 Ligue des Champions. Donc c'est vraiment la domination du foot espagnol. Quoi.
Oui, la domination du foot espagnol. Et c'est pour ça aussi qu'on est tous contents. C'est qu'on, depuis déjà plusieurs matchs, on disait tous que l'Espagne était la meilleure équipe de la compétition. Mm-hmm. On est content que ça récompense un beau football. Autant des individualités qu'un collectif fort, parce qu'on se rend compte que, par exemple, en finale, quand Rodri sort, celui qui rentre est haut niveau. Quand Pedri s'est blessé, Olmo est à un niveau exceptionnel aussi. Donc les individualités aussi ont été au niveau qu'il fallait pour gagner cet Euro. Quoi.
Oui, alors 7 matchs sans défaite, c'est l'équipe qui a marqué 15 buts sur l'ensemble de la compétition. Donc c'est quand même assez impressionnant, alors que les Anglais perdent leur deuxième finale consécutive. Et pour l'anecdote, on signalera que les Pays-Bas ont perdu leur 5e sur 6 demi-finales à l'Euro et sur 9 demi-finales avec la Coupe du Monde confondue.
Le match où j'ai vu que l'Espagne était capable d'aller jusqu'au
contre monde, l'Allemagne
et même de gagner, c'est le match contre les Allemands.
Ouais.
Quand tu joues devant le pays organisateur, qui réussit à égaliser à quelques minutes de la fin, et que tu réussis encore une fois à renverser la vapeur, d'abord battre le pays organisateur, c'est pas mal, et en plus, comme ils l'ont fait, en allant jusqu'au bout, et en jouant, mais en jouant leur jeu, sans changer de tactique, sans rien. Bon, moi je me suis dit, bon, ils vont aller au bout.
Ah oui, bah, c'est ce qu'ils ont fait aussi hier. Hein. Ils se font revenir au score. Ils ont continué, ils gagnent. Contre les Français, ils encaissent le premier but. Ça ne les a pas empêchés ensuite de savoir réagir.
Contre la France, ils sont tombés devant une équipe qui ne leur a pas posé de problème.
Bien sûr.
Donc ils n'avaient aucune raison d'appuyer sur l'accélérateur.
On l'a vu. Hein,
pour ils ont géré des buts. Ouais. Ils ont gagné 2-1 en disant « Nous, on a une finale à jouer. Merci les Bleus de nous avoir permis de faire un bon match d'entraînement en deuxième mi-temps. »
Oui. Je ne suis pas complètement d'accord, parce que contre la France, finalement, c'est un but qui vient un peu de nulle part. C'est un super but, mais pendant 15-20 minutes, ils avaient eu un peu plus de difficultés à revenir au score, bon, peut-être que le match aurait été plus compliqué pour eux. Ils n'avaient pas été trop menés depuis le début de la compétition, mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est leur confiance, parce qu'à chaque fois, ils se font égaliser. Ils perdent pas les pédales, ils ont pas un moment down d'une demi-heure comme certaines équipes pourraient l'avoir. Ils arrivent tout de suite à repartir de l'avant, à jouer et à pratiquer le même football qu'ils ont l'habitude de faire, pas plus, pas moins. Ils font vraiment ce qu'ils savent faire et peu importe le joueur qui rentre, il est performant, quoi.
Oui. Loan, même sentiment, toi, c'est la meilleure équipe, celle qui a pratiqué le plus beau football, qui s'est imposé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les grandes compétitions. Hein.
Oui, bien sûr, comme tu l'as dit, le football l'a emporté, mais c'est un collectif assez soudé, malgré les petits aléas qu'ils ont eus là, dans la compétition. Avec,
et le coaching qui a été important
Murata,
aussi.
Hein. Oui, bien sûr, mais voilà, ils aiment bien parler aussi dans la presse, etc., hein, les Espagnols. Mais ils sont bien encadrés, on a l'équipe... qui a été championne
d'Europe Espoir.
Ouais.
En
mais
2019
y a les anciens,
et finaliste en 2023.
Et il y a les anciens qui sont rompus à ce type de compétition. Au final, par exemple, en Ligue des Champions, on va parler de Nacho, Carvajal ou même Morata. Morata qui a été toujours dans les gros clubs. Donc voilà, je pense que c'est l'équipe qui a montré le meilleur football et qui a été la meilleure, qui a remporté l'Euro.
Et ils ont un bon qui est correct.
C'est ça.
Tu fais rentrer Oyarzabal. Ouais. Et t'en mets un.
Alexandre, toi t'es ravi, hein. Toi qui connais bien le football espagnol, en plus on l'a dit, Alcaraz qui gagne, c'est leur 14 juillet. Hein.
Bon, oui, Alcaraz c'est autre chose.
Tout en même temps, c'est leur 14 juillet.
Il l'avait dit que ça va être une belle journée pour le sport espagnol, ça l'a été. Mm-hmm. Mais moi je suis vraiment là, je vous parle, j'ai le sourire parce que je suis vraiment très heureux que l'Espagne ait gagné, surtout de cette manière-là.
Oui.
Et que,
ça a sauvé l'Euro quand même.
Ça a sauvé l'Euro d'une certaine manière, mais. Si on rentre un peu plus dans les détails, c'est l'aboutissement de tout ce que Luis Enrique avait construit depuis le départ. Il s'est fait beaucoup critiquer. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, la formation de Luis Enrique, elle faisait partie des deux, voire trois meilleures équipes des tournois à chaque fois. C'est juste qu'elle n'avait pas donc, de joueurs percutants sur les côtés. Et quand forcément on a Lamine Yamal et Nico Williams qui viennent rentrer dans un collectif qui est très bien huilé, qui se connaissent depuis longtemps.
Quelle pépite, les deux.
Les deux, hein, mais surtout Yamal forcément.
Ouais.
Et forcément, donc du coup, ça donne des.
Il a été désigné, je crois, meilleur joueur de l'Euro.
Et Rodri, meilleur joueur.
De la Fuente dans la continuité.
Voilà, de la Fuente dans la continuité.
C'est lui qui était le coach des, des espoirs déjà.
Il a fait un groupe qui est ultra, ultra homogène. Donc franchement, il n'y a rien à dire sur l'Espagne, c'est amplement mérité.
Moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup plu hier dans cette finale, c'est François Le Texier.
Oui, oui, mais on va en parler.
Oui, on va en parler.
Avec la crise de l'arbitrage en France,
ouais.
Lui, il a surnagé. Là,
oui, oui, c'est vrai.
Il a fait une finale parfaite. Hein.
C'est marrant, c'est comme les joueurs, c'est comme Ruiz avec l'Espagne. Super bon dans cet euro, alors qu'avec le PSG, il est plutôt moyen. Pareil pour l'arbitrage français, quoi. Il faut qu'il sorte du championnat pour les voir beaucoup mieux arbitrer et surtout ne pas être contesté, quoi. Ouais. François, t'as plus cette finale et cet euro, l'Espagne qui gagne. Toi aussi, t'as des petits liens avec l'Espagne.
Absolument.
Hein. Ouais.
Mais je voudrais remarquer que c'est le Normand, il est né, je crois savoir, à Pabu, qui est une petite ville à côté de Guingamp. Mmh. Et il a fait ses premiers pas de footballeur dans un tournoi de Six qui était à l'Étoile du Lef de Boqueo. Et pour la petite histoire, l'Étoile du Lef du Boqueo a cette particularité d'avoir le stade qui porte le nom Michel Hidalgo.
Ah oui.
Et Michel Hidalgo était venu spécialement de Marseille pour inaugurer le stade et à ses frais. Donc c'est assez remarquable de voir qu'une personnalité comme lui, alors qu'on est dans le plein, dans le sport business, le foot business, vient gratuitement parce que cette petite équipe était une équipe fair play. Donc voilà, je tenais à signaler un peu ce parallèle, disons, et qui me remet un peu de la France dans cette équipe d'Espagne.
Oui, alors il y avait eu donc 117 buts, donc 2,29 par match. Il y avait eu un euro beaucoup plus prolifique il y a 3 ans, puisqu'il y avait 142 buts, ça faisait 2,79 par match, et beaucoup moins prolifique par contre en 2016, 108 buts avec 2,21. Il y a eu quand même des beaux buts, Julien, paradoxalement.
Il y a eu des super buts, même au premier tour où les matchs étaient assez fermés. Ouais. On a eu des buts exceptionnels. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut faire un top 10 assez facilement.
Oui. Ouais, oui.
Et puis, au-delà des frappes, c'est des actions aussi, c'est des mouvements qui sont intéressants. Là, par exemple, même le but de Palmer, Bellingham, la remise qu'il fait, etc. Ouais, il a ce toucher, il a ce truc. Il y a eu des buts exceptionnels.
Ouais. Même le but d'Oyarzabal, c'est une bonne action collective.
Magnifique.
Carvajal, je crois qu'il décale Cucurella qui touche sur Oyarzabal, c'est vraiment pas mal. Mm-hmm. Et je voulais juste terminer mon propos de ce que je disais tout à l'heure, c'est que toute proportion gardée, ça me rappelle un peu l'équipe de Barcelone avant, surtout dans le contre-pressing qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils sont présents sur tous les deuxièmes ballons et dès qu'ils perdent un ballon, ils harcèlent directement le porteur du ballon. Et c'est ça justement qui fait la force de cette équipe, c'est que à chaque fois, on a l'image de l'Espagne physiquement qui est un peu en dessous, etc. Mais finalement, ils ont un coffre qui est assez extraordinaire et c'est ça qui leur permet de récupérer le ballon tout de suite et d'avoir une main mise sur le match. Et c'est ça que moi, je trouve qui est vraiment remarquable et louable. Et Luis de la Fuente, en fait, il a pas non plus été, comme tu as dit, Guy, il a continué le processus, quoi. Enfin, ils sont dans un moule bien ancré depuis qu'ils sont tout petits. C'est pour ça que Fabián Ruiz, ça me choque pas du tout qu'il soit très fort avec la sélection. Dani Olmo, qui joue à Leipzig, il est très fort avec la sélection. C'est parce qu'ils ont une manière de penser qu'on leur inculque depuis qu'ils sont petits. Du coup, quand ils se retrouvent, forcément, c'est homogène comme ça.
Ouais, alors, mais de la Fuente, je trouve qu'il dégage aussi quelque chose de différent de Luis Enrique.
Il est plus calme déjà.
Il est plus calme et puis il y a un choix de joueur mine de rien qui est fait parce que. Je veux dire que Luis Enrique a mis les bases, mais effectivement, le jeu un peu plus vertical avec les joueurs de côté qui font des différences, il avait certainement quelques joueurs en réservoir qu'il aurait pu utiliser. Il a fait le choix, comme un Guardiola, d'avoir des joueurs qui vont revenir, qui vont plus faire tourner la balle. Et je pense que c'est ça la petite différence qui fait qu'aujourd'hui, l'Espagne est plus efficace. Elle ronronnait, elle avait souvent la possession, elle avait souvent des super joueurs sur le terrain, mais dans la finition, il manquait quelque chose. Et c'est ce qu'ont amené les deux ailiers sur ce tournoi-là, et c'est exceptionnel.
Ils ont un milieu de terrain qui est extraordinaire. Rodri, il est fabuleux, ce mec-là.
Rodri, je suis très heureux pour lui. Pour moi, c'est un des joueurs dont on ne parle pas assez parce que depuis 4, 5, 6 ans, c'est un des meilleurs joueurs du monde.
Ouais. Bah, justement, quand il est sorti.
Même le capitaine, Alvaro Morata
aussi, oui.
Tout le monde le critique, etc. Mais il fait un boulot pendant le match et c'est extraordinaire, quoi.
Et oui, justement, Rodri qui est sorti à la 46e, on pensait que ça allait être compliqué pour les Espagnols. Au final, il est très bien remplacé par Zubimendi, qui vient dans le moule, quoi, qui s'incruste bien dans le moule.
Ah ouais. Rodri, donc, meilleur joueur, effectivement, et Yamal, donc, meilleur jeune et meilleur passeur aussi. Hein.
Meilleur passeur, ouais. Je crois que... Mm-hmm. Ouais, oui, c'est le meilleur passeur.
Meilleur passeur. Et il y a 6 buteurs à 3 buts, hein, parce que là, maintenant, il termine ex aequo. Moussiala, Miko Tadze, Olmo, Gapko, Franz et Kane.
Voilà. C'est ça.
3 buts. Bon. Donc, l'Angleterre qui perd sa finale pour la deuxième fois consécutivement. C'est l'échec d'un système ?
C'est pas l'échec d'un système, non. Parce que mine de rien, ils sont allés en finale à chaque fois.
Oui, mais à chaque fois, on dit l'Angleterre, mais finalement, il n'y a qu'une Coupe du Monde en 66.
Ouais, mais
Et encore,
avec le ballon qui est...
On a souvent dit qu'elle a été plus ou moins rangée, volée à l'Allemagne. Ouais.
Bah, la différence, ils ont eu d'autres...
on n'a pas les preuves, mais enfin bon. Ouais. Surtout le ballon qui tombe.
Ils ont eu d'autres grosses générations, et ils avaient... À chaque fois, il a du mal à passer les tours. Il s'arrêtait en quart, en huitième. C'était quand même des grosses défaites pour les joueurs qui constituaient cette équipe. Là, j'ai envie de dire que c'est aussi, c'est le défaut aussi d'un système, mais pas que, parce que les joueurs n'ont pas montré non plus un niveau très emballant, très important.
Non, c'est quand même incroyable. Quand même.
Bellingham fait par exemple des actions décisives, mais sur le tournoi, il n'est pas exceptionnel non plus. Après, bien sûr que dans un collectif, ça aide aussi, Mais je pense que l'Angleterre est à son niveau. Dans un Euro qui était difficile pour la plupart des grosses équipes, ils pouvaient se faire cette place-là. Mais face à une Espagne aussi favorite...
Ils ont plus joué sur leurs individualités. C'est ce qui leur a permis de limiter la casse, et d'arriver jusqu'à la finale.
Je pense que c'est le modèle Didier Deschamps qui a fait des enfants. Et qui est Southgate, pour moi, n'est pas un grand tacticien. Mais il a pris les bases, une solidité défensive, et puis après, avec le talent qu'on a devant, ça peut faire des différences à n'importe quel moment. Ça a marché relativement bien, puisqu'ils sont allés en finale, mais à un moment donné, quand le gap est un peu plus élevé... Ouais.
Et les Pays-Bas, donc, ils sont en demi-finale, un petit peu inattendu, ils sortaient troisième de la poule. Bon, ils n'ont pas fait un mauvais match contre l'Angleterre, ça s'est joué à pas grand-chose.
Ouais, ça s'est joué à pas grand-chose, c'est une équipe qui est une bonne équipe, mais... Il manque un peu de caractère, un peu d'individualité aussi. Et on disait 6 demi-finales, une seule finale. C'est pas si étonnant non plus, puisque ça n'a jamais été...
5 sur 6 de perdu.
Depuis un moment, c'est pas des favoris, les Pays-Bas, à chaque fois. Donc déjà, accéder aux demi, c'est une belle chose pour eux. Après, évidemment, ça doit être assez décevant quand on les suit, mais je ne suis pas surpris.
Lohan ou Guy, les Pays-Bas, l'Angleterre?
Ben, pour moi, les Pays-Bas, ils sont à leur place.
Oui, absolument.
Déjà, quand on l'a vu dans les...
Troisième de la poule, ils étaient
dans
sortis.
Dans les matchs de poule, on les a dominés. Après, on a fait 0-0 avec eux. Comme on n'a pas été bons. Et eux non plus. Donc, ils sont à leur place. Et eux, ils sont à leur place aussi.
Oui. Lohan ?
Je dirais pas mieux que ce qui a été dit. Les Pays-Bas, il n'y a pas de... Il y a des joueurs en devenir. Mais il n'y a pas des top players encore.
Non.
Là, on peut citer... Xavi Simons, Gakpo,
qui
commence à jouer dans des grands clubs européens, comme Liverpool notamment, mais ils n'ont pas... Van Dijk, je l'oublie, mais il commence aussi à...
Mais il y a De Jong qui était blessé, mais sinon, à part ça, c'est vrai que...
C'est pas des top players.
La génération de l'Ajax, qui était au top il y a 2-3 ans...
Très décevant.
Malheureusement, soit blessé, soit en difficulté en club, donc pas le même rayonnement qu'ils pourraient avoir s'ils étaient à leur maximum.
J'ai peur aussi que Ronald Koeman... ne soit pas le coach idéal.
Il revient souvent, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient.
Ou des mecs comme ça, mais je sais pas comment, m'a jamais inspiré. Alors peut-être que, que je me trompe.
Alexandre ?
Oui, enfin, Coman, il sortait d'un passage compliqué à Barcelone, mais je sais pas, pour moi, c'est pas forcément Coman qui était le problème. Je pense, comme l'a dit Lohan, c'est qu'en fait, ils ont pas de top player particulièrement. Donc, du coup, ça donne une équipe un peu sans émotion particulière, quoi. Mm-hmm. Même Fils de Paille, ça fait des années qu'on l'attend, mais au final, on a bien compris que ce sera jamais un excellent joueur. Et maintenant, c'est une équipe moyenne d'Europe, c'est des outsiders maintenant, c'est plus des favoris.
Et puis donc, notre équipe de France, alors on en a parlé dans nos émissions spéciales, tout au long de cet Euro. Moi, j'ai eu la chance d'être à Düsseldorf pour le premier match qu'on gagnait face à l'Autriche 1-0. Bon, Guy, on s'en tire plutôt bien déjà d'être en demi-finale, vu la prestation qu'on a faite. Je pense que, on n'a pas à se plaindre.
Oui.
Deschamps doit partir. Non, il va rester de toute façon. Demi-finale, l'objectif, il est atteint.
Il va rester, mais...
Oui.
Là, il y a un vent mauvais qui tourne autour de lui. Et quand ça commence, c'est pas très bon.
Ce serait quoi le risque de plus avoir la confiance du vestiaire? Non?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Ouais.
Je ne sais pas comment ça peut tourner, cette affaire.
Mm-hmm. Julien?
Deschamps, je pense qu'il doit partir aujourd'hui, parce que simplement, quand une grande partie de la population a ce souhait-là, il faut un moment laisser sa place. Il a fait beaucoup d'années, ça représente une génération complète. Et, ouais. Et je pense qu'il y a un moment où il faut savoir laisser la main à quelqu'un d'autre, tout simplement pour voir autre chose. Pas pour une question de résultat, évidemment, sur les résultats. Bah,
on est quand même jugé là-dessus.
Oui, non, parce qu'il y a les résultats, on a eu pendant un temps. Et moi, j'étais le premier pour le conserver, parce que je me disais, le résultat est quand même plus intéressant que le reste. Mais au bout de quelques années, on a envie de retrouver d'autres émotions aussi, oui, d'autres choses, quitte à ne pas gagner. Mais à essayer autre chose, parce qu'il y a un vivier de joueurs, c'est pareil pour les joueurs. Il y en a qui sont pas trop dans les petits papiers, d'autres oui. Et malheureusement, quand tu fais toute une génération, le mec qui est pas dans les petits papiers, il jouera jamais en équipe de France, alors qu'il aurait pu faire carrière en équipe de France.
Oui, tu as raison. Mais je crois qu'il a aussi... Son système de jeu était basé sur deux mecs.
Oui, Griezmann et Mbappé.
Mbappé. Ouais. Quand les deux sont pas en forme, ton système, il est pas cher, quoi.
Ouais, alors, ouais.
Il n'a pas su faire autre chose.
Complètement, mais on peut se dire aussi.
C'est ça qui m'a embêté, moi.
On peut se dire aussi de la même manière, il aurait pu gagner l'euro si ces deux-là avaient été en forme, en gardant ce système-là, etc. Donc ce n'est pas pour moi une question de jeu, etc. C'est plus une question de longévité. Ouais. Au bout d'un moment, il faut laisser la place. Il y a des candidats et des très bons. Si on n'en avait pas. Parce que pour les Pays-Bas, on parle de Coman, on parle de 2-3 entraîneurs, mais finalement, on ne connaît pas trop les autres qui pourraient prendre la place. En France, on a quand même pas mal d'entraîneurs qui pourraient prendre la place, et on a Zidane surtout qui est disponible et qui l'attend.
Oui. Alors, après, on peut très bien jouer. Nous, on est d'une génération avec Guy, on a connu l'équipe de France des années Platini qui aurait dû être la première équipe championne du monde et qui ne l'a jamais été. Hein.
Et justement, vous en rappelez encore, et pourtant, elle n'a pas gagné.
Surtout
donc, ça montre que sans gagner, on peut aussi faire vivre des émotions et entrer, entre guillemets, dans l'histoire.
Mais après, c'est un problème financier, parce que résilier le contrat de Deschamps, ça coûterait beaucoup d'argent.
Ça va coûter cher.
Et
comme
puis après,
comme le maire.
Si on embauche Zidane, ce que beaucoup de gens semblent souhaiter, ça coûtera encore plus cher. Alors, compte tenu des finances de la 3F et des droits du foot, ils vont toucher beaucoup moins
aussi,
que
ouais.
prévu.
Moi, je dirais plus politique que financier, parce que M. Diallo est intérimaire et qu'il y a quand même, on le sait qu'au sein de la Fédération française, il n'y a pas 15 000 candidats. Et on sait qu'il y a des arrangements, il y a des ententes, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Et à un moment donné, pour ne pas froisser ces gens-là et pouvoir être élu prochainement, il faut peut-être aller dans la direction. Il n'a même pas laissé quelques jours avant la fin de après l'élimination de la France pour dire en gros que Deschamps sera encore
mais
là.
Mais le contrat, il était quand même de 2026. Hein. Après la Coupe du monde 2022, il y a un contrat qui va
mais
jusqu'en 2026.
Mais le contrat, déjà, n'était pas logique à l'époque de le faire sur 4 ans.
On aurait pu faire
2 ans
et après... Oui.
C'était à la demande de Deschamps et on lui a un peu cédé tout ce qu'il avait envie. Je peux comprendre qu'on lui cède à certains moments, mais au bout d'un moment, quand il a fait autant de temps, le prolonger de 4 ans, pour moi, c'est une erreur. Mmh. Après, évidemment, aujourd'hui, on peut dire, oui, il a encore 2 ans de contrat, mais Deschamps est déjà parti plein de fois de ses clubs sans réclamer quoi que ce soit. Mmh. Je pense que si on a une fédération forte, on peut trouver un arrangement, on peut faire. Il y a moyen de le faire, mais il faut la volonté de le faire, et ce n'est pas le cas.
Alors Guy, on en parlait hier. Finalement, le patron de la Fédé, ce n'est pas Didier Deschamps.
Le
patron de la Fédé, ce n'est pas Deschamps.
Le patron de la Fédé, non.
Je blague.
Non, mais je veux dire,
il impose
mais
peut-être...
Mais ce que je pensais, moi, tout à l'heure, c'est que les élections, c'est en septembre.
C'est au mois de décembre. Je crois.
Décembre. Il n'y a personne, dehors de Diallo. Personne.
S'il y a Michel Moulin,
je ne vois personne.
On l'invitera.
Pour être
comme
président,
on a son numéro.
Président de la Fédé, à part lui.
Oui.
Donc, je pense qu'il va rester. Et s'il reste, il va garder Deschamps.
Oui. Alexandre,
toi
tu veux qu'il parte, je sais, on en a déjà parlé.
Non, mais la semaine dernière, après le match de l'équipe de France, on était avec Abou, on était extrêmement déçus en fait.
En plus, c'était votre anniversaire en plus de ça.
Non, moi je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Julien, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, le jeu c'est une chose, les résultats c'est une chose, etc. Mais c'est surtout la longévité, ça fait quand même 13 ans qu'il est là.
C'est vrai qu'il est rare.
Au bout d'un moment, il a vu pas mal de générations passer. Au bout d'un moment, il faut laisser sa place. Et je pense que de lui-même, le mieux ce serait de laisser sa place. Et Après, je ne suis pas dans le vestiaire, je ne suis pas dans les petits papiers, etc., loin de là. Mais on le voit, on le ressent que sur le terrain, il y a des messages qui ne passent plus. Il y a des discours qui ne passent plus, voilà, tout simplement. Il y a des gestions de joueurs qui sont un peu compliquées. Ça se ressent sur le terrain. Donc, au bout d'un moment, merci Deschamps, merci beaucoup, mais au revoir.
Oui, Loïc, et après François.
Moi, je suis totalement d'accord avec Alexandre. Ce qui est le plus problématique, c'est qu'il manquait cette euphorie dans le groupe. Oui. On avait l'impression que... Bah, c'était plat. Est-ce qu'ils ont réussi? Moi, personnellement, ils n'ont pas réussi à m'emmener et je n'ai pas vibré pendant l'Euro. Alors, j'étais même pas déçu d'être éliminé.
On en reparlera, je poserai la question à François tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a eu un sentiment en général. Bon, il y avait peut-être la situation politique qui faisait que on n'a pas eu la même fièvre, le même enthousiasme. Et d'ailleurs, les audiences télé, elles sont moins bonnes. Oui. Qu'il y a trois ans.
Hein. À peu près. Aussi bien M6 que TF1.
Oui, parce qu'on est à 7 millions, je crois, pour la finale d'hier. On était à 11 millions pour la finale d'il y a 3 ans. Et pareil pour tous les matchs de l'équipe de France, je crois qu'il manque 3-4 millions à chaque fois. Quoi.
En même temps, il y a des choses qui se sont percutées. Bon, il y a les événements politiques en France, l'arrivée des Jeux Olympiques.
Oui, tout ça.
Donc
ça,
voilà, et puis est-ce que l'Espagne suscite autant d'intérêt?
Oui, mais enfin, l'équipe de France...
a suscité l'Italie il y a
oui, mais
ans.
Les audiences, même pour l'équipe de France, elles sont en baisse.
Oui, elles sont en baisse. Même
pour les matchs de l'équipe de France.
Absolument.
Oui.
Pour tout. Alors, maintenant, on en a discuté lorsqu'il y avait la Coupe du Monde de rugby, où les audiences étaient très fortes, même plus fortes que pour
certains matchs de foot
officiels, hein, pas des matchs amicaux. Je pense qu'il y a peut-être une certaine désinfection. Et là, on le voit pour les droits du foot, pour le renouvellement des abonnements.
On va en parler,
Hier, je crois que c'est sur l'équipe, la chaîne de l'équipe. Il disait qu'il y avait plus de 90% des gens qui étaient hostiles donc, à ce type de contrat qui allait être passé par la Ligue et seraient abonnés éventuellement. Donc je pense qu'il y a peut-être une désaffection pour le football, une certaine déception. Alors est-ce que c'est dû aux mauvaises performances de la France lors de l'Euro ou d'autres raisons? Parce que c'est vrai que la Ligue 1, ça fait moins rêver qu'à une certaine époque.
Oui, bah, comme on est dessus, on va en parler, les droits télé, là.
Il y a plusieurs choses. Pour les matchs de l'équipe de France, bon, je pense que le jeu n'a pas aidé, parce qu'évidemment, quelqu'un qui ne regarde pas beaucoup de football s'ennuie complètement au bout de 5 minutes et ne regarde pas la suite. Pour les droits télé, je dirais que c'est autre chose aussi, parce que quelles sont les stars aujourd'hui dans notre championnat?
Oui, c'est ça le problème.
Clairement,
il y en a plus.
En termes de timing, on est pas bon du tout, parce qu'il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus ces joueurs-là qui te font acheter la Ligue 1. Et aujourd'hui, il faut se demander qui est la star du championnat. Moi, je ne la vois pas. Et ce n'est pas Kolo Muani, ce n'est pas ces joueurs-là du PSG qui vont amener du monde. Malheureusement pour nous, c'est comme ça. Et bon, je pense qu'il y a tout un tas de circonstances autres, mais que ça participe à ça, en tout cas.
Oui. 50 euros par mois, tu es prêt à le mettre?
Non, il y a beaucoup de plateformes qui rediffusent différemment.
Oui,
mais c'est
voilà,
pas bon de le dire.
On en parlait,
il est bon de souligner qu'il y a 20 ans, les droits du foot, c'était Canal qu'ils avaient eu.
Ouais, 600 millions.
600 millions d'euros.
C'était en 2004.
Donc 100 millions de plus que les droits qui ont été négociés là.
Ouais, donc,
c'est quand même en 20 ans une sacrée déperdition de l'intérêt pour le football. Mais je pense que c'est surtout au fait que le président de la Ligue n'est absolument pas à la hauteur, qu'il a fait ce contrat avec CDC.
Il n'a pas anticipé.
Il a refusé Canal au début, hein. Il a refusé le retour de Canal+, en plus. C'est ça son erreur.
Déjà qu'il a favorisé Amazon pour un prix très inférieur à ce que payait Canal pour avoir moins de matchs.
Ça, c'est pas bien.
C'est déjà une erreur fondamentale. Et après, avec la société commerciale, là, je crains que ça aille au clash, parce qu'ils doivent déjà 100 millions.
Ouais.
Donc, les 500 millions, il faut déjà ôter 100 millions, plus la taxe Buffet, 5 millions, plus les droits qu'ils doivent à la fédération, aux entraîneurs. Finalement, il ne va pas rester grand-chose. Il va peut-être rester 250 millions, 300, grand maximum.
Mais là, ça a été décidé à la hâte. Hein, parce qu'il y avait quelques clubs qui n'étaient pas bien pour le recrutement.
Bien sûr.
Notamment Reims, Nantes, Brest, je crois.
Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de conclure directement l'accord pour avoir l'argent dans les caisses directement.
Et il faut savoir qu'il y a 5 clubs qui ont voté contre. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais. Ça a été assez
Dont Lyon, Saint-Etienne, Lens, si je ne dis pas de bêtises.
Oui. Voilà,
5 clubs.
Mais ça risque de faire la même chose qu'avec Mediapro. Hein. Moi, je me souviens, en 2018, Mediapro nous annonce 1 milliard, donc tout le monde extraordinaire, etc. Alors qu'en fait, on s'est aperçu après deux choses. Un, que Canal, leur offre n'était pas très éloignée de celle de Mediapro. Et deuxième chose, que Mediapro était adossé au Parti communiste chinois. Donc, en cas de défaillance, vous allez attaquer le Parti communiste chinois. Oui. Mais c'est une grande rigolade.
Puis,
donc, je crois que le verre est rentré dans le fruit à partir de cette histoire de MediaPro qui a été faite parce qu'ils voulaient arriver absolument au milliard. Et bah, ils sont arrivés au milliard, mais MediaPro, aux deuxième échéance, bah, ils ont mis la clé sous la porte.
Non, tout ça, c'est très politique. Encore une fois, y a une brouille avec Canal depuis un moment déjà, justement ce que vous disiez auparavant. On a quand même Nasser qui est président de Bein,
oui,
et qui est dans les discussions, qui soutient le président de la Ligue. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on comprend pourquoi, mais justement, il y a quand même un peu de conflit d'intérêts dans tout ça, même beaucoup. Et je pense que ça n'aide pas beaucoup la Ligue 1 à avancer sur les droits de télé. Donc, malheureusement, je pense qu'il faut faire un peu de ménage au sein de la Ligue, de la Fédé, un peu partout.
C'est pour ça qu'il a fait un cadeau. Il a mis 100 millions pour le match, pour que Bein Sport ait un match par journée. Mais enfin, pour revenir en tout cas aux consommateurs, c'est indécent de payer. Je crois que c'est 40 euros d'Azon et 15 euros par mois, du coup, avec l'offre Bein Sport pour avoir le.
Oui. On a calculé, ça fait 50 au total, hein, je crois.
Ça fait 50.
C'est un engagement. S'il n'y a pas d'engagement, ça doit être 10 euros de moins.
Oui.
Donc, s'il y a un engagement, effectivement, on arrivera à 55 euros. Donc, avec tous les autres abonnements.
Mais c'est indécent.
C'est indécent.
Ouais. C'est indécent. C'est Canal Plus, c'est quoi? C'est combien Canal Plus? C'est 30 euros? Avant, avec la Ligue 1, c'était 30 euros, sauf qu'avec Canal+, t'as une offre énorme ici.
Oui,
alors que
sûr.
DAZN, ils ont quoi? Il me semble qu'ils ont la Ligue des Champions féminines et qu'ils ont
du MMA.
Oui. Mais je veux dire, l'offre, elle est bien moins importante. Donc franchement, ça va être très, très compliqué.
On dit que les gens se désintéressent du football. Moi, j'ai aussi l'impression qu'on leur met des bâtons dans les roues pour le regarder.
Bien sûr.
Quand il faut avoir 4 chaînes différentes pour regarder du foot depuis quelques années, quand les Coupes du Monde, les Ligues des Champions, etc. ne sont plus diffusées en clair, etc. et qu'il faut payer à chaque fois pour ça.
Soit sur
M6,
soit sur TF1.
C'est un produit qui aujourd'hui est très coûteux pour le particulier. Et tout le monde n'est pas prêt à mettre cet argent. Ils vont sur les plateformes parallèles, malheureusement. Mm-hmm. Si vous regardez sur n'importe quelle plateforme parallèle, il y a plus de 200 000 personnes qui sont
faut
en
pas
live
dire,
devant.
Attention, faut non, pas le dire.
C'est aussi pour faire comprendre qu'il y a une réelle problématique de diffusion et que cette problématique engendre aussi ces problèmes-là.
Allez, une petite pause musicale et ensuite, on continue sur l'euro. Et puis, tiens, on vous parlera d'Mbappé, entre autres. Allez, la musique.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Allez, donc, émission que vous pourrez réécouter en podcast, hein, comme toutes les 95 émissions précédentes, comme ça vous aurez tout l'été hein, pour revenir sur tous les gens qu'on vous a invités, qu'on a invités, et puis même ceux qu'on a eu l'occasion de rencontrer et d'interviewer. Un petit mot, Guy, sur Mbappé, on en a beaucoup parlé, hein, une saison à oublier bien vite.
Oui, c'est une saison à oublier. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même un problème à Mbappé.
Oui.
C'est clair.
Qui va au-delà du physique ?
Comment ?
Qui va au-delà du physique, on en parlait mardi.
Oui, oui, au-delà du physique. Oui. Au-delà du physique. Parce que c'est pas normal qu'un joueur qui était épanoui, qui dribblait, qui était imprévisible, qui marquait des buts improbables, d'un seul coup, il a tout perdu. Mm-hmm. Tout perdu. C'est pas normal.
Oui.
Il y a quelque chose, à mon avis, quelque chose d'autre que le physique.
Oui, c'est mental.
Oui, c'est le mental. Ouais, le mental, il se déglingue pas tout seul, quand même.
Non, bien sûr.
J'ai une question pour vous. Oui. Je me suis posé la question, moi, qui suis néophyte sur le football, si, justement, Kylian Mbappé, qui va prochainement rejoindre le Real de Madrid, est-ce que face à l'Espagne, mais bon, après, ça n'explique pas tout non plus, est-ce que face à l'Espagne, sachant qu'il va aller rejoindre ce club donc espagnol, est-ce qu'il n'y a pas un petit facteur psychologique où finalement, il n'y va pas franchement, parce qu'il sait très bien qu'après, même si c'est qu'un club espagnol, il sera là-bas. Il y a bien sûr tout un tas de choses, mais je me posais la question, vous qui êtes des experts.
C'est son rêve d'enfant, de toute façon.
Je dirais qu'il a été aussi mauvais que les autres.
Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un facteur...
Non, je pense qu'il y a eu un surplus de motivation, mais que ça n'a rien changé, parce qu'il est à la ramasse. Physiquement, mentalement, je pense que c'est surtout mental.
Oui.
On dit qu'il se trouve beaucoup d'excuses sur la saison, sur l'Euro, etc. Mm-hmm. Pour moi, c'est pas juste des excuses, c'est aussi une réalité. Quand t'es mal en club toute l'année, qu'il y a des problèmes extra-sportifs, etc., ça engendre aussi... tu te mets dans une mentalité différente, t'es pas aussi joyeux sur le terrain, t'es pas aussi bien, confortable. Pas de préparation en début de saison, c'est impactant. Tous les joueurs te le diront que c'est hyper impactant. Et donc, il y a une multitude de petits facteurs qui font qu'il arrive à l'Euro. Physiquement et émotionnellement, il est à la cave. Il a plus du tout la capacité à faire la différence.
Et puis, il a aussi, à mon avis, un problème de communication. Il fait des fois certains discours qui ne sont pas opportuns, quoi. Et à mon avis... J'ai peur que ce joueur qui a été adulé par le public est en train de se retourner contre lui, quoi. Moi, je ressens ça
à travers
des réactions à droite et à gauche. Il y a des gens qui commencent à ne plus l'aimer. Donc, il s'est bien passé quelque chose qui s'est cassé entre lui et ceux qui l'adoraient. Oui. Il y a eu quelque chose.
Et quand on réalise son rêve, je pense que quelque part, il y a une décompression. Son rêve, c'était d'aller jouer au Real Madrid. Là, il a réalisé, donc il n'y a plus de problème avec le PSG. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a une certaine décompression. Alors, il va revenir. Je pense que c'est un footballeur exceptionnel qui va revenir à un très bon niveau. Mais ça demandera un peu de temps. Bon, il change déjà. Il va être dans une résidence maintenant à Madrid où était Benzema, qui est hyper sécurisé. Il y a des journalistes de l'équipe qui m'ont dit du temps de Benzema, mais c'est Fort Knox, c'est-à-dire qu'il faut des sécurités, etc. Donc, il se sent peut-être enfermé, et le temps qu'il s'habitue à son nouvel environnement, ça va peut-être mettre du temps. Mais je pense qu'il est suffisamment doué pour être aussi performant qu'il l'a été il y a quelques années, mais ça demandera peut-être un peu de temps d'adaptation.
Oui. Bon, Loan, l'arbitrage, alors ?
Une super nouvelle pour la direction de l'arbitrage et puis pour tous les amoureux de l'arbitrage en France avec François Le Texier qui a dirigé la finale hier soir. Mm-hmm. Le plus jeune arbitre européen à diriger une finale d'Euro.
Parce qu'on va rappeler qu'avant, on a eu un Français, c'était Michel Vautreau, donc qui avait arbitré une finale de l'Euro, c'était en 1988.
Ouais,
les Pays-Bas et ce qui était à l'époque l'URSS.
Une belle passe d'armes pour un arbitrage calme, serein et maîtrisé lors de la finale.
Ouais. Alors, globalement, il n'y a pas eu de grosses décisions polémiques. Par exemple, Olmo, là, la faute.
La faute d'Olmo, ouais. À s'expliquer.
Toi, tu siffles ou pas ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et, ouais. Et l'avertissement est largement suffisant parce que, il n'y a pas forcément d'intensité dans le geste. Il y a l'impact qui est au niveau de la hanche, bas de la hanche, haut de la cuisse. Et puis, il n'y a pas de vitesse. Ouais. Donc, certes, il y a une semelle qui on catégoriserait plus le plat du pied qui va venir toucher la hanche et la cuisse. Mais voilà, c'était un geste réalisé avec inconsidération, on appelle ça comme ça dans l'arbitrage, et qui valait seulement un avertissement. Donc c'était très bien.
Il y a quand même eu les deux attentats de Kroos.
Oui, alors ça, on en a parlé la semaine dernière, mais vas-y, tu peux le redire. Ouais.
Pedri dort.
Ouais.
Et là, théoriquement,
et Kroos sans rien.
Quand un joueur blessé sort du terrain, le mec qui a fait la faute, il est exclu. Ouais. Là, non. Ouais. Il n'y a même pas eu un carton.
Ça, l'histoire de l'exclusion, malheureusement, c'est un peu un doux rêve des amoureux du foot. C'est pas forcément parce que, malheureusement, on est blessé qu'on doit...
Il prend même pas un carton, là.
Non, bien sûr, mais...
C'est quand même des fautes flagrantes.
Notamment, cette faute-là, par exemple, si cartons il y avait eu, on serait resté à l'avertissement. On ne serait pas passé à l'exclusion parce que il y a pas de semelle. On ne met pas directement en danger l'intégrité physique de son adversaire en réalité. Mm-hmm. Donc voilà.
D'accord.
Et je trouve qu'il n'y a pas eu tellement d'interventions.
Non, c'est ça. Il n'y a pas eu de grosses interventions.
Ouais. Et à noter la super décision de l'arbitre assistant hier soir sur le deuxième but de l'Espagne.
Oui,
Ça se joue.
Oui, mais il n'y a pas en jeu quand même.
Non. Hein, mais justement, c'est lui.
Il appelle même pas.
C'est pas au moment où ils arrêtent la vidéo, c'est-à-dire que c'est à la microseconde. S'il avance un tout petit peu, c'est en jeu.
Donc voilà,
validé, bonne décision. Mais pour revenir aux joueurs blessés, dans le rugby, à une époque, ils avaient tenté une expérimentation. C'est-à-dire que si tu blessais un joueur, et si par exemple il était arrêté, parce que la blessure était suffisamment grave pour... un arrêt, mettons, de 3 ou 6 mois, le joueur fautif avait la même durée de suspension où il n'aurait pas le droit de jouer. Ouais, donc, je ne sais pas si c'est après, ça peut
c'est
être...
C'est compliqué parce que si on a un choc de la tête, l'adversaire se blesse, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de... Et s'il se blesse, qu'est-ce qu'on fait ? On le suspend aussi.
Non, mais il fallait que ce soit quand même...
Intentionnel,
attention. Ouais, hein. Ouais. Mais ça n'a pas été poursuivi, donc je pense que l'idée était peut-être bonne, mais c'était compliqué à mettre en jeu.
En tout cas, il n'y a pas eu grosse polémique quand même sur cette compétition.
Non.
D'une façon générale, on sait que dans une compétition, sur un mois, il y a toujours des arbitres qui peuvent passer à travers. Mais là, il n'y a pas eu d'énormes polémiques quand même.
Non, parce que les arbitres ont été aussi aidés avec cette nouvelle règle où seul le capitaine peut venir discuter avec l'arbitre. On a vu des arbitres beaucoup plus ouverts. Mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose qui est demandé et qui doit plaire normalement au grand public et puis aux joueurs. Parce qu'on a vu aussi que au niveau de leur comportement, ils ont été beaucoup plus cléments avec les décisions des arbitres, les joueurs. Alors parfois, ils s'énervaient. Parfois, on voyait quelques gestes d'humeur. Mais en réalité, ils ont réussi à se refocaliser sur le match ensuite, une fois que la faute était sifflée. Et puis, on avait un climat plus serein autour des matchs. Et je serais curieux de voir combien de temps on a joué. On a peut-être plus joué...
Le ballon,
on
n'a
pas eu un super
jeu,
football,
quoi.
Mais le temps effectif a été peut-être plus grand que sur les précédentes compétitions.
Mm-hmm. Puis il y a eu le pénalty de Lewandowski, quand même, sur Maignan.
Oui.
Là, je n'ai pas trouvé que c'était...
La décision est logique.
Ouais.
Mais après, on aime ou pas ce genre de décision.
On en avait parlé
ici. Il y a quand même un truc qui n'est pas normal. On demande aux gardiens... de ne pas bouger de sa ligne, de ne pas faire le moindre geste. Et le gars qui va tirer le pénalty, lui, il peut s'arrêter, regarder, voir où le gardien va te mettre, il peut lui mettre un but. Non, c'est pas normal, ça.
Complètement d'accord.
Pas normal.
Mm-hmm. Donc tu vas rappeler encore la règle, on en a parlé la semaine dernière. Hein.
Ouais, ça, c'est les lois du jeu, on est obligé de les suivre.
Oui.
C'est qui régissent le football mondial, même.
Oui,
et du coup, on est obligé de suivre ces lois du jeu-là.
Il décide et puis...
Exactement. Donc là, le gardien, il ne peut pas avoir... Si, en fait, il y a dans... Si vous voulez, le gardien peut avoir un pied au niveau de la ligne de but. Donc si il prend son pied d'appui et que son pied, il est levé déjà et qu'il est au niveau de la ligne de but, c'est bon.
Ouais.
Il n'est pas obligé d'avoir le pied au sol, en fait. Donc il peut pas, il peut s'élancer légèrement de derrière sa ligne et pousser. Mais je suis d'accord avec vous que question d'équité, c'est quand même sur cette phase de jeu, on a l'impression que l'attaquant est plus souvent aidé, on va dire.
C'est vrai.
Moi, je pense que le bord devrait peut-être revenir sur la règle des mains dans la surface de réparation, parce que si elle n'est pas intentionnelle, ça devient ridicule. Alors maintenant, on les voit tous avec les mains derrière le dos. Donc, je trouve que c'est dommage qu'on siffle un pénalty pour une main qui n'est pas intentionnelle.
C'est bien, François, on en a parlé la semaine dernière, il va en reparler, tu vas nous redonner la règle. Le côté intentionnalité, ça compte pas ?
Le côté intentionnel, facilement, si c'est intentionnel, pénalty. Si c'est dans la surface,
c'est-à-dire qu'est-ce que t'appelles intentionnel ?
Carton rouge, non, en plus.
Non. Ça, en fait, ça dépendra. En fait, si le carton rouge, c'est vraiment quand on va anéantir une occasion manifeste de but. Ouais. Par exemple, un défenseur comme Suarez en Coupe du Monde.
Il met la main.
Exactement. Voilà. Quand il n'y a plus le gardien, et là, on empêche vraiment le but de rentrer alors qu'il allait être marqué. En revanche, lorsqu'il y a une frappe, lorsqu'il y a en direction du but, par exemple, et qu'il y a un joueur qui met la main, que ça soit intentionnel ou non, si elle est sifflable et qu'elle est sifflée par l'arbitre, vu qu'on n'a pas le résultat du tir, on mettra un avertissement au joueur. Voilà. Et du coup, les mains, elles deviennent sanctionnables lorsque on n'a pas d'effet de surprise pour le joueur, lorsque elle se trouve pas dans une position naturelle et lorsque souvent elles agrandissent la surface couverte par le corps.
C'est
en fait. Voilà. Et puis forcément après les mains qui dépassent l'aisselle et voilà quoi, tous ces types de mains qui pourraient être évitées au maximum. Et malheureusement ça reste toujours à discrétion et les lois du jeu sur ça sont compliquées pour les arbitres.
Mais compliquées aussi à comprendre pour le téléspectateur lambda.
Bientôt il y aura l'explication, c'est important ça.
Si c'est un spécialiste, il connaît les règles, mais moi spectateur lambda du football... Des fois, sa décision surprend.
Bon, on va appeler notre ami Stéphane pour faire un petit peu le bilan de cet euro. Juste un petit mot sur la Copa América, l'Argentine qui a gagné 1-0 après prolongation contre la Colombie. L'Argentine confirme son succès du dernier mondial.
Oui, un début de match houleux, qui a été repoussé. Une Argentine qui a fait le travail, pas flamboyante l'Argentine, on en parlait la dernière fois. Est-ce que la Copa América a un très grand niveau et cette année encore plus? Moi, je me pose la question. Et quand on voit une Argentine pas si forte que ça dans ses prestations, il l'a gagné. Ils ont fait le taf, mais il n'y a pas grand-chose à en dire, j'ai l'impression.
Oui, et puis nos féminines.
Malade, c'était avec le Brésil, quand même.
Bien sûr. Et puis nos féminines, qui ont gagné 2-1 face à la Suède, donc nos féminines qui sont qualifiées pour le championnat d'Europe, c'est plutôt bon signe. Et puis nos bleuets, ils vont faire les Jeux Olympiques, qui ont gagné 7-0 en match de préparation.
Doublé de la casette, d'ailleurs.
Oui.
Qui confirme.
Pour le tournoi olympique. Alors, c'est des belles chances, ça, pour nos deux équipes. On a croisé Hervé Renard il y a quelques jours sur Clairefontaine. Donc, il y a des chances. C'est bien. C'est plutôt de bon augure.
Bien, effectivement, de remporter enfin une médaille pour les filles aux Jeux Olympiques. Et puis, les garçons, finalement, on pensait, comme il n'y avait pas Mbappé, certains autres joueurs qui ne seraient pas libérés, finalement, elles se débrouillent plutôt pas mal.
Bon, une chance de médaille pour bien compléter ça. C'est bon pour Stéphane ? On va écouter notre ami Stéphane pour la dernière fois de la saison. Bonsoir Stéphane, du quotidien du sport.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Bon, alors, ton bilan de l'euro qu'on vient de faire, le tien, on en a parlé hier.
On a largement parlé, si ce n'est qu'il y a, en dehors de l'Espagne, c'était quand même un euro assez médiocre. Et puis il y a une équipe en dehors, il y a des petites équipes qui nous ont emballés sur un match ou de temps en temps. Je pense à la Géorgie, à la Turquie par exemple, la Roumanie, un match, des choses comme ça. Mais sinon, en dehors de l'Espagne, c'était vraiment un euro à oublier.
Oui, y compris pour l'équipe de France, malgré sa demi-finale.
Ouais, exactement. Maintenant, moi, je suis quand même pas trop quand je vois les sur les réseaux sociaux et sur Internet l'espèce de montée de contre Didier Deschamps. Je trouve que c'est quand même un peu dur quand même. On a du mal à penser que quelqu'un arriverait, on lui dirait que on vient de jouer la demi-finale. Qu'est-ce qu'il imaginait si on avait perdu en 8e contre la Belgique par exemple, ou si on était pas sorti du groupe, ça aurait été normal, mais de se faire incendier. Mais si, donc je je trouve que c'est peut-être quand même un petit peu exagéré. On peut le penser, effectivement, hein, que le jeu doit être meilleur, que l'équipe de France doit peut-être passer à autre chose, mais c'est quand même assez incroyable quand on y pense. La situation est quand même assez incroyable.
Donc, pas un exceptionnel euro. Bon, maintenant, l'équipe de France doit rebondir et bien repartir donc, dès le mois de septembre avec cette Ligue des Nations. On va quand même rappeler que le football espagnol est représenté partout. Hein. Champion d'Europe Espoir, les féminines championnes du monde, les deux clubs européens, donc du Real Madrid et de Barcelone, dominent l'Europe du foot chez les hommes et chez les femmes. C'est vraiment la victoire d'un football. Hein.
Ouais, tout à fait. Bon, pour chez Barcelone, je n'ai peut-être pas quand même ça encore, même s'il y a des jeunes joueurs du Barça qui ont été sacrés hier. Ouais,
mais je parle des filles aussi. Hein. Je parle des filles. Il y a des filles de Barcelone. Hein.
Ouais. D'accord. Okay. Ouais. Okay, ouais. Mmh. Oui. Pour l'instant, ça enlève. De toute façon, au niveau des garçons, déjà, c'est quand même une grande nation. C'était un petit peu. Pas décevant, bien sûr, mais c'était un peu contre nature de voir. Depuis 2012, les difficultés que les Espagnols ont rencontrées hein, depuis leur sacre en 2012 et leur victoire au championnat d'Europe. Donc ça a été effectivement, ils reviennent, je pense, à leur niveau qui est dans le top 3, dans le top 3-4 du football mondial, quoi.
Un petit mot sur maintenant les Olympiques, hommes et femmes, hein, ça se présente plutôt bien, ça va nous permettre de faire le lien puis la transition avec les JO.
Ouais, bah, tout à fait. Maintenant, effectivement, je vous entendais un peu parler. C'est vrai que la dernière fois pour le site, et, on avait bâti l'équipe. Maintenant qu'on sait exactement les joueurs qui seront à la disposition, Thierry Henry, l'équipe qui peut mettre en place. Et c'est vrai que elle a quand même de la gueule cette équipe, quoi. Donc, ça a l'air pas mal. On peut pas trop se fier aux matchs amicaux parce que c'est contre des adversaires très très faibles.
Ouais, 7-0 contre la République dominicaine. Ouais.
Voilà. Bon, mais ça va se durcir avec la compétition, surtout que le tournoi olympique, c'est quand même quelque chose de très particulier pour de grandes nations qui en font un peu leur spécialité. Je pense aux Sud-Américains, par exemple, qui sont toujours très 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 forts, quoi. Où il suffit de voir un peu les sélections qui ont été annoncées, qui sont très fortes. Donc ça va être très dur, ça a changé de panier. Mais en tout cas, c'est sûr que, en tout cas, moi qui ne donnais aucune chance, mais vraiment aucune chance, en tout cas déjà chez les garçons, pour l'équipe de Thierry Henry, je suis un petit peu plus optimiste quand même aujourd'hui, même si je pense que ça va être quand même très très difficile d'aller chercher quelque chose. Mais c'est sûr que on va voir ce que vont donner des grands espoirs comme Mickaël Olysée, par exemple, qui était aux portes de l'équipe A. On va voir donc ça peut être effectivement intéressant quand même.
Oui, et puis il ne faut pas oublier les filles qualifiées pour donc l'Euro 2025 après leur victoire face à la Suède. Hein. Là aussi, des chances de médailles.
Voilà, ouais, tout à fait, ouais. Des bonnes chances de médailles parce que c'est-à-dire que pour l'instant, on peut peut-être penser que l'équipe de France féminine l'avait sous-performée quand on voit hein, aux Coupes du Monde et tout, quand on les met tout le temps parmi les favoris, ils sont bien classés, ils ont des bons résultats en qualification, ils ont des bons résultats, puis finalement ça n'a jamais été vraiment au bout hein, depuis. Une campagne, je crois que c'était aux Jeux Olympiques, Philippe, vous allez dire sûrement mieux que moi, au Canada, non, c'est ça ?
Elles avaient terminé quatrième au jeu de, je crois que c'était à Pékin, qu'elles avaient terminé quatrième avec Dini, voilà, l'entraîneur à l'époque.
Donc, depuis ça, il n'y avait pas eu, on a été quand même largement déçus.
Pékin et Londres.
On a été déçus énormément par la Coupe du Monde en France.
Bini, Michel Bini, ouais, voilà.
Et la Coupe du Monde, la dernière, là, on a été aussi déçus. Oui. Donc, on va essayer. C'est vrai qu'on peut penser que là, ça marche bien. Il y a la petite Katoto, là, devant, qui était une grande, grande promesse, qui s'était fait une grave blessure, qui a mis du temps à revenir. Apparemment, maintenant, elle est apte à jouer à son meilleur niveau. Donc, ça peut être effectivement, tout ça peut être intéressant avec l'ossature des joueurs de l'Olympique lyonnais. Donc, ça peut être, effectivement, et puis avec Hervé Renard, quelqu'un qui est expérimenté. Et là, je pense qu'elles sont plus de chances, je dirais que je mets un peu plus de chances quand même pour les filles que pour les garçons.
Très bien, Stéphane, merci pour l'ensemble de cette saison. Bonnes vacances et puis on se retrouve à la rentrée. Hein.
Voilà. Rentrée, pas de problème. Et puis nous, voilà.
Nous, on continue quand même pendant les Jeux. Voilà.
Allez. Pour d'autres aventures.
Voilà. Très bientôt. Merci. Voilà. Allez, maintenant, le journal des sports donc, d'Alexandre, parce qu'il n'y avait pas que du foot, Alexandre, et il y avait aussi donc, d'autres gros événements. On en a parlé notamment avec le tennis à Wimbledon.
Oui, donc on commence ce dernier journal des sports de la saison avec le Tour de France.
Eh oui, c'est repos aujourd'hui, c'est la route du Tour.
Oui, et Tadej Pogacar, l'inévitable, toujours, qui domine le classement général avec 3 secondes de plus que le Norvégien Jonas Vingegaard. La 15e étape d'hier a été remportée justement par le Slovène, plus qu'une semaine avant l'arrivée du Tour à Nice. Et c'est fait, Carlos Alcaraz remporte son deuxième grand chelem, donc Wimbledon. C'est le deuxième Wimbledon d'affilée, pardon. Après avoir affronté Tommy Paul en quart et Daniil Medvedev en demi, l'Espagnol a battu le Serbe Novak Djokovic en 3-7, 6-2, 6-2, 7-6. Lui qui avait annoncé une bonne journée pour les Espagnols, il a eu le flair, il a eu raison. Chez les femmes, grosse surprise puisque c'est Barbora Kerchikova qui remporte ce Wimbledon en finale contre Jasmine Paolini 2-7 à 1. Après sa victoire samedi, la Tchèque fait un bond de 22 places au classement WTA et se retrouve donc à la 10e place.
Et puis on va rappeler qu'il a gagné Roland-Garros, hein, Alcaraz. Donc,
oui, il a gagné Roland-Garros,
c'est vraiment
donc c'est un très bel été pour lui.
Du moment, hein.
Il a seulement 20 ans, il me semble, 21 ans. Et puis le 15 de France en rugby termine sa tournée sud-américaine catastrophique par une défaite.
Avec tout ce qui s'est passé en plus.
Ouais. Que ce soit en histoire extrasportive ou sur le terrain, ça s'est très très mal passé pour nos Bleus qui ont perdu en plus leur dernier match 33-25 contre l'Argentine. Pour les autres principaux résultats, donc il y a eu les All Blacks qui ont battu les Anglais 24-17, le Pays de Galles s'est incliné 28-36 face à l'Australie et l'Irlande a gagné 25-24 contre l'Afrique du Sud. Et on finit ce journal d'espoir avec le meeting d'athlétisme à Monaco. Julien Alfred a remporté l'épreuve 200 mètres femmes avec 10 secondes 85 au compteur. Letsail Tebogo a lui remporté le 200 mètres hommes. Après sa bonne performance de la semaine dernière, l'Algérien Jamel Sejati réitère et remporte le 800 mètres hommes. Et bon résultat pour les Australiens puisque Jessica Hull remporte le 2000 mètres femmes, Amish Kerr remporte le saut en hauteur hommes et Nina Kennedy finit première en saut à la perche. Et j'en profite pour vous donner quelques nouvelles de Kevin Mayer.
Ah oui.
Le Français s'est déjà remis au travail selon son frère, après sa blessure la semaine dernière à Paris. Toujours pas de certitude quant à sa participation aux Jeux Olympiques.
On l'avait dit qu'il serait bon la semaine dernière, mais apparemment il y a du changement.
Finalement là, il y a un peu de changement. On croise les doigts, mais il n'y a rien de certain quant à sa participation.
Il mériterait de le faire parce que c'est quand même...
Et allez, les U20 en rugby, qui ont battu la Nouvelle-Zélande.
Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais. Voilà. Allez, la deuxième pause musicale et ensuite on passe à la page olympique.
J'ai la montre arrêtée, j'ai même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain en regardant le miroir. Pas beau à voir, en retard sur l'horaire. Plus besoin de se presser, radio libre allumée. Stop, pas de publicité, une chanson bien cotée. C'est le tube de l'été, me fait flipper de la tête aux pieds. Je commence à ranger, car ce soir terminé. Je serai sur la route avec bison futé. Je suis pas seul à rêver du ciel bleu des palmiers. Et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime.
Paris FM.
Voilà, c'était notre petit cadeau de fin de saison, ce medley de musique. Bon, bah, Vanessa, on le disait, hein, ce week-end, donc, eh bien, la flamme est arrivée sur Paris. C'était hier le 14 juillet, puis aujourd'hui, un petit peu partout, dans tous les quartiers de Paris. Je crois que tu y étais aussi, François, hier. Hein.
Oui, au Panthéon, oui. Et au musée de Victor Hugo. Place des Vosges.
Alors, avant d'aller donc, dans la capitale, voilà. La flamme a naturellement continué cœur de la France.
Elle a continué son parcours dans le Loir-et-Cher, sur cette terre de château, avec notamment le zooparc de Beauval, le plus beau zoo du monde. Elle est passée dans le village de Thésée, c'est Maud Fontenoy, hein, la célèbre navigatrice, qui l'a amenée là-bas. C'est un village viticole gallo-romain. Évidemment, elle est passée par le château de Chambord, construit en 1519, qui est vraiment célèbre, hein, célébrissime. Et puis, elle a fini sa course à Blois, où c'est Raphaël Beaugilet, hein, qui a allumé la flamme. Ensuite, elle est partie dans le Loiret, Philippe. Elle est terre de patrimoine historique, avec ses châteaux, évidemment. Il y avait un relais collectif de volley-ball qui a célébré ce passage de la flamme sur cette terre. Il y avait 140 porteurs de la flamme, dont Laurent Geoffroy, 3 fois champion du monde, 7 fois champion d'Europe de judo kata, Stéphane Goudou, champion de tennis fauteuil et sélectionné aux Jeux Olympiques 2012 de Londres, Maurice Châtelet, lui, une personnalité, puisque c'est un centenaire, hein, qui a consacré sa vie au sport. Il est notamment dirigeant du CROSS, justement, donc, dans le Loiret. Et puis, c'est Mona Francis, la paratriathlète, qui a allumé la flamme. Ensuite, elle est repartie dans Lyon.
Chez Giroud, là-bas.
Voilà, exactement, chez Giroud, qui d'ailleurs a été l'un le plus célèbre porteur de la flamme. Et puis, elle est partie ensuite en Côte d'Or. En Côte d'Or, avec notamment dans le parc régional, et également ensuite elle est partie dans l'Aube, pour finir finalement sa course à Paris. À Paris hier, donc évidemment devant l'Assemblée nationale, au Sénat, sur le rond-point des Champs-Élysées, place du Panthéon, évidemment, tous les lieux emblématiques de Paris, bien évidemment, hein, notamment dans les porteurs de la flamme, Thierry Henry, évidemment.
Et Yannick Noah qui l'a allumé devant l'Hôtel de Ville.
Et puis il y avait aussi Marie-Claude Pietragalin, qui a fait une chorégraphie dans le musée du Louvre. C'était vraiment très beau à voir, en fait. J'ai beaucoup aimé, pour ma part. Aujourd'hui, bah là, à l'heure où nous parlons, elle est à Belleville et elle va finir sa course à République.
Oui, avec une grande fête. Hein.
Avec une grande fête. Et hier, bon, évidemment, excusez-moi, à l'Hôtel de Ville, hein, c'était vers 23h qu'elle a fini, qu'elle est arrivée et qu'elle a été allumée. Beaucoup de monde sur ces étapes parisiennes. D'ailleurs, je connais certaines personnes qui ont assisté à ce parcours de la flamme, notamment au Sénat. Et puis, il y avait beaucoup de ferveur. Hein. J'ai vu quelques vidéos.
Ah bah, ça va de soi.
Exactement. Et puis, évidemment, à étape particulière, 14 juillet, 15 juillet, ville, évidemment, qui accueillera la majorité des épreuves. C'était des cérémonies particulières et puis beaucoup de monde, comme d'habitude.
Alors, François, c'est bon signe, ça y est, nous y sommes au jeu, avec quand même des volontaires, 45 000, qui vont jouer un rôle hyper important.
Mais le volontaire, c'est la possibilité pour des gens qui n'ont ni les qualités pour être des athlètes de haut niveau, ni, disons, les compétences pour être dirigeants sportifs, de participer quand même à la grande fête quadriennale du sport.
Oui, c'est un rêve, hein, c'est un rêve de vivre quand même.
C'est un rêve qui a été caressé par 312 000 candidats, pour au final 30 000 pour les Jeux Olympiques et 15 000 volontaires pour les Jeux Paralympiques. Alors, il y avait 3 conditions. Un, parler français ou anglais, avoir plus de 18 ans au 1er janvier 2024 et être disponible, bien sûr, pendant la durée des Jeux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura 515 volontaires qui seront, disons, à un poste beaucoup plus intéressant, entre guillemets, puisqu'ils seront invités à la célébration, ils remettront les médailles, enfin, ils remettront les différents breloques qui seront remises par les dirigeants sportifs aux médaillés. Ils seront habillés par LVMH, alors que les autres volontaires sont habillés par Decathlon. Donc le côté sombre, hein, de l'histoire, c'est pour l'hébergement des volontaires, c'est-à-dire il y en a beaucoup
les
qui viennent de l'étranger.
Ou les étrangers.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 20% qui sont issus de 150 pays, donc c'est énorme. Et il faut aussi souligner qu'il y a 5% situation de handicap. Mais le problème, c'est de trouver un logement, sachant que le comité d'organisation règle uniquement les voyages dans Paris intramuros avec une carte Navigo et un repas par jour, mais ne règle pas ni les autres repas, ni les hébergements. Donc, c'est le petit problème particulier.
Oui, mais François, ça a toujours été une tradition, et pour cause, hein, puisque c'est en 1992, donc au moment où la France demandait d'avoir les Jeux d'été, c'est Barcelone qui les a eus, mais on a eu les Jeux d'hiver sur Albertville. Tout est parti de là, hein, t'en es à l'origine, pratiquement.
C'est-à-dire qu'on a eu cette idée en 1985 de lancer un corps de volontaires olympiques pour Paris, mais qui aurait été basé sur une sélection à partir de sport, le duathlon, et d'un questionnaire sur l'Olympisme. On s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de volontaires qui voulaient participer aux Jeux, mais qui ne connaissaient pas grand-chose de l'histoire de l'Olympisme, à part Pierre de Coubertin. Donc on avait dit, il faut faire une sélection. Il y aurait eu 1992, c'est date, donc voilà, qui serait sélectionnée pour les meilleurs postes, c'est-à-dire les postes les plus proches des athlètes. Et il fallait bien sûr que Paris ait les Jeux. Malheureusement, c'est Barcelone qui a eu les Jeux 1992, malgré Nelson Payou qui s'est battu comme un beau diable. Et on oublie un peu aujourd'hui Nelson Payou de le citer dans l'histoire olympique, parce que c'est quand même quelqu'un qui, quand il est arrivé en 82 au comité olympique, s'est battu pour que la France et Paris aient les Jeux olympiques.
Oui, et qui avait avalisé le projet en écrivant au président de l'Assemblée nationale de l'époque, M. Chaban-Delmas.
Et alors, en fait, bon, dans notre projet, effectivement, on a eu les soutiens du mouvement sportif, de l'USJSF. Guy connaît bien donc, cet organisme, qui était présidé à l'époque par Jacques Marchand.
Ouais.
Et il y avait eu donc le soutien de Chaban-Delmas, de Chirac, de Mauroy, qui à l'époque n'était plus Premier ministre, mais encore maire de Lille, et qui allait aussi avoir une candidature pour 2008. On le rappelle, c'est que Lille a été candidate aux Jeux de... Ils sont fait éliminer la première avant la shortlist, mais ils ont été candidats.
On a eu trois échecs, hein, 92, 2008, 2012, avant d'avoir 2024. Bon, enfin, on a eu 92 pour les Jeux d'hiver.
Alors, 92 pour les Jeux d'hiver, oui, ça a beaucoup servi. C'est-à-dire que le CIO, ne pouvant pas donner les Jeux d'été à Paris, a dit, bon, bah, par compensation, on va offrir les Jeux d'hiver à Albertville, ce qui était très bien, une stratégie très bien prise en compte par Barnier et Jean-Claude Killy, qui étaient les deux coprésidents d'Albertville.
Oui, et donc il faut rappeler que les volontaires, bah, ils font le succès des Jeux olympiques.
Hein. Bah, les volontaires, voilà. Ça leur permet de réaliser une économie. Hein. Oui. S'ils étaient obligés de payer 45 000 personnes, c'est sûr que ça grèverait un budget qui, pour l'instant, est pratiquement à l'équilibre. Donc, le fait que les volontaires soient impliqués donc fait en plus participer les gens à la grande fête olympique. Hein. Moi, je serais volontaire, mais je n'avais aucune compétence particulière, ni aucun passé de sportif qui m'aurait permis de participer aux Jeux olympiques autrement. Donc, c'est une très bonne chose. Et je pense que la plupart de ceux que j'ai pu rencontrer jusque-là étaient très contents de participer à cette grande fête et ils sont impatients d'arriver à la cérémonie d'ouverture.
Alors justement, la cérémonie d'ouverture, ça y est, tout est fin prêt. Alors déjà, on sait qu'on s'est baigné dans la Seine.
Hein. Oui,
la ministre s'est baignée dans la Seine. Madame Hidalgo, apparemment, c'est mercredi.
Mercredi, mais on n'est pas encore totalement sûr. Et donc... Samedi matin, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, en présence de Alexis Anquinquant, le paratriathlète, se sont baignés dans la Seine. Ça y est, ils l'ont fait. Ils ont même devancé Anne Hidalgo. Oui. Et ça s'est plutôt bien passé. Bon, moi, j'ai vu la vidéo, on a entendu quelques petits cris de la ministre. Et puis, je crois qu'elle a fait glisser. Mais voilà, ils l'ont fait. Alors, Alexis Anquinquant, justement, quelques jours plus tôt, avait déclaré au Figaro, à nos confrères du Figaro, que la Seine n'était pas plus sale qu'ailleurs. Donc, évidemment, il y aura encore des tests, puisqu'il y a aussi toutes les conditions météorologiques qui jouent là-dessus. Et puis, on verra si, logiquement, ça devrait être bon. Mais évidemment, on reste toujours avec des précautions. Il y a toujours des plans B. Hein. Donc, On verra bien le jour J, mais on espère vraiment que ça pourra bien se passer.
En tout cas, c'est un confrère qu'on connaît bien, qui est Jacques Vendroux. C'est lui qui a été le premier dans l'eau avec CNews. Voilà. Et puis Europe 1. Donc, cérémonie d'ouverture.
Cérémonie d'ouverture. Ouais. Alors, la première fois hors stade, donc sur la Seine, un parcours de 6 km. Alors, au début, on était passé d'une jauge de 600 000 spectateurs à 326 000, dont 220 000 gratuits. Mais attention, il faut avoir une invitation. Oui, c'est-à-dire, on ne pourra pas venir comme ça... assister à la cérémonie d'ouverture. Il y en a 110 000 environ qui seront payants, avec des tarifs allant de 90 euros à 2 700 euros quand même. Sans parler de ceux qui seront au plus près de la cérémonie, c'est-à-dire au Trocadéro, qui pourront payer jusqu'à plus de 10 000 euros. Donc avec une prestation à hauteur, on l'espère pour eux, mais c'est quand même extrêmement cher. Alors, pour dans le détail, on ne connaît pas bien sûr pour la cérémonie d'ouverture le détail de l'artistique, mais on sait qu'il y aura 140 à 170 embarcations, donc sur lesquelles seront les différentes délégations.
Ça va durer 3 heures à peu près.
Ça va durer 3 heures et demie. Ouais, 3 heures et demie, c'est de 19h30 à 23h. Les forces de sécurité sont très importantes. 45 000 seront mobilisées, de l'armée, de la sécurité privée aussi. Et il y aura un périmètre spécial de sécurité, dit de protection antiterroriste. Et pour finir, c'est Thomas Joly, 42 ans, le célèbre chorégraphe, qui s'est rendu célèbre par un spectacle de 18 heures. Donc, c'était la trilogie d'Henri IV de Shakespeare et qui avait monté Starmania en 2022, où il s'est fait repérer par les organisateurs de la cérémonie d'ouverture.
Oui, voilà. Autre chose à rajouter ?
Oui, alors pour la cérémonie d'ouverture, bon, évidemment, on espère que ça se passera extrêmement bien. Et puis, je voulais aussi vous parler de la sélection des paratriathlètes, puisque mercredi, lors d'une conférence de presse, donc, Cédric Gosse, le président de la Fédération française de paratriathlon, a annoncé donc, les sélectionner. Il a vraiment expliqué que c'était une ambition nourrie d'humilité et on a vu les réactions des différents sélectionnés qui étaient tous très heureux d'être sélectionnés. Donc, je vais vous les annoncer. Chez les femmes, nous aurons Mona Francis, Élise Marc et sa guide Camille Sénéclaze, Gladys Lemoussu, Élise Courvoisier, Anouk Urzilla et Julie Morano, qui l'accompagnent, donc Marano, excusez-moi. Chez les hommes, nous aurons Louis Noël, Jules Richtstein, qui a été 4 fois champion du monde, Geoffrey Verzi, Cédric Denusière, Michael Herter, Pierre-Antoine Baël, Grégoire Berton, Antoine Perel et Johan Lebert, son guide, et Thibaut Rigaudot et Cyril Viennot. Évidemment, Alexis Anquinquant, évidemment. Ça Alexis Anquinquant, d'ailleurs, qui est porte-drapeau avec Nantes-Marin Keita.
J'allais te demander les porte-drapeaux, si on les connaît.
Les porte-drapeaux des Jeux Paralympiques, donc c'est Alexis Anquinquant et Nantes-Marin Keita. Oui. Et puis pour les Jeux Olympiques, ce sera Florent Manodou et Mélina Robert Michon. Voilà nos porte-drapeaux qui vont défiler fièrement le jour de la cérémonie d'ouverture. On attend ça vraiment avec impatience, ça va être beau. Et moi, j'ai hâte d'y être.
Et ce sont les athlètes et les para-athlètes qui ont voté, il faut le dire.
Oui, exactement, tout à fait. C'est eux qui ont voté. Et d'ailleurs, mercredi, lorsque je suivais la conférence de presse, on n'avait pas encore le résultat. Et évidemment, il devait être annoncé d'ici quelques heures. Ouais. Et il a été annoncé donc peu de temps après.
Bon, François, comparez donc ces jeux.
Comparatif, de 1924 à 2024.
Ça a énormément changé, naturellement.
Il y avait 44 pays en 1924, 3089 athlètes et seulement 135 femmes. Donc voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est la parité absolue, donc 10 500 athlètes, 5 250 femmes, 5 250 hommes. Et il y a une femme qui s'est battue pour justement la promotion du sport féminin, c'est Alice Millat, donc qui s'est battue pour qu'en 1928, il y ait une femme qui participe aux Jeux Olympiques, qui participait aux 800 mètres, mais les dirigeants ont fait en telle sorte qu'elle soit un peu disqualifiée en disant « c'est pas un sport pour des femmes », elle s'est arrivée presque toute écroulée, c'est normal, parce que 800 mètres est une des courses les plus difficiles de demi-fond. Donc, l'expérience s'arrêtait là. Mais il y a ce Merci Alice, c'était un spectacle qui s'est joué, il se joue plus malheureusement au Théâtre de la Contrescarpe. Et donc, parlait de cette histoire de cette femme qui s'était battue pour que il y ait des Jeux Olympiques avec des femmes à parité avec les hommes. Et malheureusement, il a fallu attendre donc cette année pour que ça se, ça se réalise. Alors, cette année, il y aura 329 épreuves. Donc, il y en avait 17, dans le, 126 en 1924. Et donc, on voit quand même l'évolution. Et à l'époque, bien sûr, c'était que des amateurs. Ouais. Aujourd'hui, ce sont tous des professionnels ou semi-pros. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1924, il y avait le premier village à Colombes. Et qu'aujourd'hui, donc, le village olympique est effectivement tout à fait différent de celui qu'il y avait à Colombes, où il y avait des baraquements. Et la cérémonie d'ouverture se déroulait dans le stade de Colombes. 45 000 places, et ce qu'il faut savoir...
Yves Manoir, qui va servir pour le hockey sur gazon.
Voilà, hockey sur gazon. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'avaient pas assez d'argent, le comité d'organisation, et ils ont passé un deal avec le Racing Club de France, propriétaire du stade Yves du Manoir, pour qu'il y ait un partage de recettes 50-50 entre donc, les organisateurs et le Racing de France, qui a réalisé à cette occasion une très belle affaire. Alors, dernière chose, l'USA était première des médaillés avec 99 médailles, devant la Finlande, 37,
la
France, 38, mais qui avait moins, qui était troisième au classement parce qu'elle avait 13 d'or. Et puis, il y avait deux stars, c'est Paavo Nurmi, c'est encore le Finlandais.
Et surtout,
Johnny Westmuller, trois médailles d'or, qui
Tarzan.
Était Tarzan, et que j'ai eu la chance de voir la fin de sa carrière alors qu'il inaugurait une piscine à Maison Lafitte, pour l'anecdote.
Et puis d'ailleurs, hier, la finale de l'Euro se déroulait dans le stade olympique où ont eu lieu les Jeux, excusez-moi, de 1936, avec Jesse Owens qui avait donc gagné 7 médailles d'or, je crois, devant les yeux d'Adolf Hitler. Et donc, c'était aussi, il y avait un petit côté historique hier pour ce stade. Voilà.
Alors, il y aura un Club France, naturellement, Porte de la Villette. Hein,
ouais.
Tout le monde pourra y aller, puis il y aura même un centre
non,
média.
Tout le monde pourra y aller, mais il faudra s'inscrire d'abord.
Ah d'accord, il faut s'inscrire
et,
quand même.
Voilà, absolument.
On peut pas venir
et
comme
payer,
ça
non, et payer 5 euros.
Ah bon?
Oui,
d'accord.
Donc c'était une petite contribution, parce que c'est un village qui va coûter énormément d'argent et qui va être déficitaire. C'est plus possible maintenant de rattraper le coup, parce qu'ils ont vendu des hospitalités. Seulement le problème, c'est que c'est le comité olympique qui a vendu les hospitalités via ses fédérations. Mais c'est que les gens, lorsqu'ils sont invités à des Jeux olympiques, c'est pour voir des épreuves et pas pour voir dans un Club France des épreuves sur des écrans géants. En revanche,
et
le
pour
parc
faire la
des
fête,
champions...
pour les fêter, tout ça, non ça
ah sera... bah, non, mais il y aura des artistes. Hein,
voilà.
Bob Sinclair, enfin, différents artistes qui se produiront au parc de la Villette. Alors, en revanche, le parc des champions qui se trouve jardin du Trocadéro au pied de la Tour Eiffel, avec une jauge de 13 000 places, 4 000 assises et 9 000 debout. Mais c'est le principe du premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que ce sera gratuit. Et pas besoin de s'inscrire.
Et il y aura des étrangers qui pourront venir, il n'y aura pas de problème.
Tout le monde pourra venir, mais la jauge s'arrête à 13 000. Hein, donc 13 000 unième, malheureusement, ne pourra pas rentrer. Et avec quand même des athlètes qui seront célébrés, dont les athlètes qui seront médaillés
la veille
seront célébrés. Il y aura des DJ à partir de 16h et il y aura aussi différents médaillés qui n'avaient pas reçu leur médaille lors des Jeux précédents parce qu'il y avait du dopage et qui ont été reclassés, seront célébrés dans ce parc ce parc des expositions.
Il y en a même qui datent des Jeux de Sydney, ce qui est fou quand même, presque 25 ans quoi.
Bah, il faut regarder sur sportbunes.club. Il y a une interview de l'ancienne ministre Valérie Fornero qui explique justement comment des athlètes ont pu être détectés parce que les produits sont gardés pendant plusieurs années. Et donc, il y a des nouveaux protocoles de détection de produits qui ne pouvaient pas l'être à l'époque et donc qui ont été déclassés plusieurs années après. Donc, ces athlètes-là, on devrait en principe les retrouver au Parc des Champions.
D'accord. Alors, très brièvement, on va rappeler aussi les autres sites où vous pourrez aller voir les épreuves.
Les sites, alors à l'Arena Bercy, pas très loin d'ici, on aura le basketball, la gym artistique, le trampoline. Ensuite, au Champ de Mars, nous aurons le judo et la lutte. À l'Arena Paris-Nord, Porte de la Chapelle, nous aurons la boxe et le pentathlon moderne. À l'Arena Paris-Sud, l'haltérophilie, le handball, le tennis de table, le volleyball. Excusez-moi, c'était Arena Paris-Nord. Et maintenant, Arena Porte de la Chapelle, excusez-moi. Badminton, et évidemment, on en avait parlé, hein, puisqu'on avait été aux Internationaux de France. Et la gymnastique rythmique. Au centre aquatique, qui a été inauguré cette année, nous aurons la natation synchronisée, le plongeon et le water polo. Logique, hein, toutes les disciplines aquatiques. Au Centre National Tir de Châteauroux, là on parle oui. de Paris, nous aurons le tir. À Versailles, il y aura évidemment les sports équestres et le pentathlon moderne. À la colline des Lancours, Philippe,
oui, oui. Voilà, VTT vous serez... et Lancours, et puis Saint-Quentin. Ouais.
Et Mountain Bike. Ouais. Et puis au Grand Palais, il y aura l'escrime, le taekwondo. Magnifique mm-hmm. cadre, évidemment. À l'Hôtel de Ville, nous aurons l'athlétisme. Et puis aux Invalides aussi, nous aurons l'athlétisme, du cyclisme sur route et du tir à l'arc. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait eu un test event de tir à l'arc hein, aux Invalides. À la Concorde, le basketball 3x3, évidemment, le breaking, le cyclisme BMX freestyle, le skateboard. Au golf national, nous aurons les épreuves de golf. Et puis à Marseille,
il faut dire, ouais.
Excusez-moi, oui. Et à Marseille, nous aurons évidemment la voile, au Parc des Princes, le foot, et puis aussi dans d'autres stades ouais. autour de la France. À la Défense Arena, il y aura de la natation et du water polo, au pont Alexandre III, cyclisme sur route, natation, marathon, swimming et triathlon. Au Bourget, ce sera de l'escalade sportive. Au stade BMX de Saint-Quentin en Yvelines, nous aurons du cycling BMX oui. racing. Au stade de Bordeaux, du foot, évidemment. Au stade de France, du rugby à 7 et de l'athlétisme. Au stade de la Beaujoire, encore du foot, évidemment, à Lyon également. Et puis à Marseille, à Nice, au stade Geoffroy-Guichard, bien évidemment, également. Nous aurons au stade nautique de Vers-sur-Marne, de l'Aviron, oui. du canoë slalom et du canoë sprint. Du basket et du handball au stade Pierre-Mauroy, évidemment, du tennis à Roland-Garros ouais. et de la boxe. À la Tour Eiffel, nous aurons du volleyball de plage, au stade du Manoir dont on vient de parler à Colombes, nous aurons du hockey sur gazon. Et puis là, on va un peu plus loin, à Tahiti, nous aurons du surf, les fameuses épreuves de surf. On revient à Paris, athlétisme et cyclisme sur route. Et puis aussi pour le cyclisme sur piste, ce sera le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà pour les sites des épreuves, Philippe.
Olympiques et paralympiques.
Olympiques, hein. Je vous les ai donnés. Voilà.
Et paralympiques, c'est les mêmes, pratiquement.
Et paralympiques, c'est voilà. les mêmes, exactement. Et alors, ce sera magnifique.
Je voudrais savoir, Loan, les Jeux, tu vas les suivre
oui, je vais les
le
suivre.
Le foot, surtout
le foot et beaucoup le rugby à 7. Ah, le rugby à 7, d'accord. oui, avec l'équipe d'Antoine Dupont. Mm-hmm. Parce que c'est un peu notre mascotte, hein, ouais. maintenant, pour mm-hmm. le rugby. Et je vais voir les Jeux paralympiques de sport équestre.
Ah, c'est bien. Donc, ouais. c'est en Versailles, là-bas.
Exactement.
Voilà. Je crois que tu as des billets, toi, Julien. Tu m'avais dit.
Oui, exactement. Ouais. Je vais voir aussi les sports équestres.
Ah bah, c'est bien, vous avez peut-être vous rencontré.
Non, j'ai pris pas mal de trucs, tennis, foot, athlétisme. C'est une occasion assez unique. Et, ouais. et bon, on a d'une part des sportifs français dans oui, certaines disciplines qu'on a envie de regarder, Léon Marchand et autres. Mmh. Et puis, on a des disciplines qu'on a ouais. moins l'habitude de voir, mais ouais. Qu'on voit un peu de loin sur les grandes compétitions et qu'on est content de retrouver ouais. à Paris en plus, dans un cadre un peu différent. Et puis,
ouais. si on a et puis toi, t'es content assister. Que les Jeux aient lieu à Paris. Toi qui es parisien, ça, c'est pour embêtant.
Oui, pour les déplacements, moins, mais je suis content. Ouais, je suis content. C'est une occasion unique, encore une fois, et je pense que faut voir le bon côté de la chose. Et, ouais. et on s'en rappellera. On a Usain Bolt qui avait fait quand même la remarque en disant qu'il aurait aimé participer à ces JO-là avec la cérémonie d'ouverture sur la scène, etc. C'est que ça marque aussi à l'étranger. Bien on sûr. Peut en dire du mal pour plein de raisons, mais il y a quand même des belles choses aussi.
Et évidemment, les yeux seront rivés sur Paris. Et je me posais la question, pourquoi les sports équestres alors? Qu'est-ce qui vous plaît dedans?
Bah parce qu'ils ont trouvé les biens,
non, tout ça. c'est ma compagne qui m'emmène.
Ah, voilà, ça fait bien
bizarrement,
aussi, c'est beau.
Bizarrement, c'est la même chose pour moi.
Ah. Donc, voilà,
mais très, très sympathique les à regarder. Et moi, j'ai l'occasion d'être un peu dans les sports équestres avec ma compagne justement à l'année. Et sur les JO, on a eu des grands moments, en 2016 notamment, où on est champion. Donc, et puis voilà, j'ai quelques liens avec les poneys et chevaux.
Bon, toi, tu pars en vacances, quoi.
Je pars en vacances, ouais, mais je vais quand même suivre ça de loin, obligé. Ah,
t'es journaliste, oublie pas. Ouais, ouais. Guy, toi, tu vas... t'as fait combien de jeux? T'as fait des jeux d'été?
Ah oui, oui.
Et des jeux d'hiver aussi?
Ah ouais, c'est-à-dire, je les eus, oui.
Oui.
Je les eus, mais de mes vacances.
Ouais, c'est ça, voilà. Non, bien sûr, hein, en province. Bon, ouais. En tout cas, il y a ceux qui pourront aussi suivre, mais François, les jeux sur France Télévision, naturellement.
Et il y a un record à battre, c'est 4,8 milliards en audience cumulée.
D'accord.
Et les Jeux de Londres en 2012, alors 100% sur France Télévision.
Oui.
Donc 50 heures, France 2, France 3, un peu sur France 5, mais beaucoup moins. Et il y aura quatre plateaux délocalisés, dont celui le plus prestigieux sur le toit du Musée de l'Homme, qui donnera donc directement sur le Trocadéro. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cérémonie d'ouverture, il y a au moins, j'ai eu cet après-midi un des réalisateurs, Fred Godard.
Oui,
il y aura
bien
au moins
connu.
200, mais lui, il ne travaillera pas sur la cérémonie d'ouverture. Il y aura au moins 200 caméras, donc avec des innovations extraordinaires, des caméras sous-marines, etc. Et c'est tellement complexe à gérer qu'il y aura 5 réalisateurs. C'est la première fois, comme c'est des jeux hors stade, donc sur une durée, une distance de 6 km, il y aura 5 réalisateurs donc, qui devront se répartir le travail pour sélectionner les images. Sinon, pour France Télévisions, la grande émission, ce sera celle animée par Laurent Louya et Léa Salamé, qui sera en direct du Club France de la Villette. Généralement, c'est vers 23h15. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le diffuseur hôte, c'est OBS. C'est directement le CEO qui désigne cette société pour réaliser les Jeux Olympiques. Et c'est pour cette raison qu'on aura un réalisateur anglais, qu'il n'y aura pas de réalisateur français, qui a mis furieux plein de réals parmi les plus doués qui opèrent habituellement en France.
D'accord, ok. Donc ça sera l'immense fête. Et puis après, on va dire aussi qu'on risque à nouveau de réorganiser les Jeux en 2030. Hein. Les Alpes françaises,
oui.
Là ça devrait tomber au mois de juillet.
Oui, effectivement, ils ont un dossier intéressant. Bon, maintenant, est-ce qu'on a les moyens financiers d'organiser des
jeux? On a
jeux
les pistes, hein. On a les pistes.
6 ans de...
ouais.
Oui, mais enfin, c'est toujours ce qu'on dit au début. Hein. ce qu'il faut remarquer quand même pour ces jeux-là, c'est que le budget de 8,8 milliards, 9 milliards devrait être à peu près tenu. Ils ont prévu un dépassement maximum, enfin ceux qui le disent, de 16%. Donc, lorsqu'on sait que les Jeux Olympiques de Montréal... jusqu'à l'année dernière, ils étaient encore en train de les payer. Donc, on peut s'estimer heureux s'il n'y a que 16% de dépassement pour les Jeux de Paris.
Oui, et puis je me disais, ces Jeux, on attend évidemment la réponse. On a quand même déjà plusieurs infrastructures, en effet, pour les Jeux d'hiver. Par exemple, pour le patinage artistique que je connais bien, il y a la patinoire de Nice qui est prévue. Mais évidemment, je pense qu'il y aura quand même une petite réflexion après les Jeux de Paris 2024, de voir peut-être aussi comment la population le vit et aussi, est-ce qu'ils sont prêts à y retourner? Pour moi, ce serait magnifique, surtout des Jeux d'hiver. J'adorerais y assister. Et on verra. Mais c'est vrai qu'il y aura plusieurs facteurs, évidemment, qui joueront là-dessus.
Ouais. Oui. Et puis,
le problème, il faut savoir, c'est que pour les Jeux de 2024, il n'y avait que finalement deux villes candidates. Il y avait Paris et Los Angeles.
Oui.
Et si Los Angeles a accepté de décaler... à 2028, c'est que le CIO leur a donné une enveloppe d'1 milliard.
Alors,
donc, je veux dire par là que les villes qui sont candidates pour les Jeux, elles ne sont pas aussi importantes que cela parce que ça coûte énormément d'argent.
Ouais.
Alors, c'est une vitrine, certes, mais ça coûte beaucoup d'argent et les populations ont peur que leurs impôts augmentent dans de manière considérable.
Oui, et pour finir, donc, la cérémonie clôture, là, ça sera par contre du classique,
voilà,
ça sera
absolument.
Au Stade de France. Hein.
Absolument, alors que la cérémonie clôture des Jeux paralympiques, ce sera en haut des Champs-Élysées et arrivera jusqu'à la place de la Concorde.
Oui. Et, pour le... oui.
Et justement, cette cérémonie d'ouverture qui aura lieu sur les Champs-Élysées, moi, j'ai rencontré Rama, une dame en fauteuil roulant, qui m'a livré ses impressions sur et les agitos et l'accessibilité.
On les passera à la rentrée.
Oui, bien sûr. Hein. Mais c'était très intéressant parce qu'il y a quand même, elle avait quand même cette envie, cette ferveur. Et elle disait qu'il ne fallait pas faire de French bashing, enfin parce qu'elle est franco-américaine. Elle avait hâte quand même d'y être. Et donc, on verra ça à la rentrée. Mais en tous les cas, j'espère qu'il y aura vraiment une belle réussite sur ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on va le vivre tout l'été.
Et voilà. Et puis, on vous en reparlera à la rentrée. Merci en tout cas à toutes
merci.
Et à tous.
Merci.
Bel
merci
été.
À toi,
bel été à François. Bel été à Guy.
Oui.
Je voudrais dire
vite,
un petit mot. J'aimerais vous remercier, Philippe, parce que c'est aussi grâce à vous que je suis là. J'aimerais remercier évidemment Jason et Léonard sans qui ces émissions ne seraient pas possibles. Et évidemment, à vous et Daniel, je vous remercie parce que je suis rentrée à mon Paris Sport depuis 6 mois et je suis très heureuse de faire partie de l'émission.
Et
j'ai pas fini.
Voilà. T'as pas fini.
Et Alexandre aussi, évidemment, qui m'a supporté depuis 6 mois aussi.
Moi, j'en profite pour remercier Philippe, qui a ouvert la saison cette année, première émission, et qui clôt la marche aussi, 308e émission de la saison. Mon Paris FM, cette année, c'est 308 émissions. Première Philippe, 308e Philippe, donc merci.
Et
à l'année prochaine.
À l'année prochaine. Et puis, merci à Jadon et puis à Léonard pour la mise en place de ces émissions tout au long de la saison. Vous restez avec nous, vous réécoutez tous les podcasts. Merci à tous et à tous. On se retrouve au mois de septembre. aux alentours, je crois, du 23. Faudra quand même prendre un peu de vacances. Hein. Voilà. Et puis, on, voilà. Et puis bah, écoutez, on finit en musique. Merci à toutes et à tous pour votre immense fidélité. Bye bye.
Bravo.
Le ciel est noir, métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voiler la face, mais ça reste. Ça reste la même merde, tu deviens leur kleps, métalès. Et tu te noies dans la paresse. Fin des temps, nouveaux signes apparaissent. Le ciel est noir, à quoi s'attendre en cadaverse. La vie te consomme, c'est pas l'inverse. Mon cœur est noir, pas lavé. Noir et dur, comme si j'aimais pas la vie. Ça me parle politique, j'fais comme si j'avais pas la vie. Et j'marche tout seul comme si j'avais pas d'amis. Le ciel est noir, métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voler la face, mais ça reste. Ça reste la même merde, toi. Tu deviens leur kleps, métalès. Et tu veux pas voir la vérité. Peut-être que les catastrophes naturelles sont méritées. De quoi nos gosses vont hériter. Si la terre meurt, qui va dire RIP? Pourquoi y'a des hommes au-dessus des lois? Puis quoi encore, je devrais leur dire, excusez-moi. Y'a ceux qui se croient encore au temps des colonies. Traînez-les sur la place publique, qu'on les nique. Et je me demande si j'ai le droit de dire ça, polémique. Y'en a qui disent bien pire, comme Eric. Je ferai pas de communiquer, je suis pas désolé. Loin de tout ça, je les vois en dézoomé. Le ciel est noir, métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voler la face, mais ça reste. Ça reste la même merde, toi. Tu deviens leur kleps, métalès. Le ciel est noir, métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voler la face, mais ça reste. Ça reste la même merde, toi. Tu deviens leur kleps, métalès.